Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Si les préjugés touchent les femmes d'aujourd'hui, ils concernent aussi celles du néolithique, nos ancêtres lointaines, dont ne subsiste qu'un souvenir fugace, des figurines, des stèles, des peintures rupestres, des installations funéraires. L'archéologue Jean Guilaine s'est emparé de ces traces émouvantes, disséminées dans toute l'Europe et le monde méditerranéen, pour tenter de comprendre quelle était la place des femmes dans les premières sociétés paysannes, quel était leur rôle au sein de la famille, comment se sont construits leurs rapports aux hommes, comment le travail était-il organisé et divisé, et quel imaginaire pouvait-elle véhiculer dans l'univers symbolique. Jean Guilaine est membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la femme des origines suscite bien des passions et parfois bien de mauvaises interprétations. Et c'est un maillon qui nous manque finalement dans la connaissance de l'histoire de l'humanité.
C'est un maillon qui est longtemps resté invisible, n'est-ce pas ? Mais on peut le dire en réalité de l'histoire des femmes en général, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, effectivement, je vois que les femmes préhistoriques, qu'il s'agisse des femmes chasseurs-cueilleurs, paléolithiques, ou des femmes du néolithique, c'est-à-dire la période que j'étudie, les premières civilisations paysannes, eh bien, je vois qu'elles attirent de plus en plus l'attention des préhistoriens, mais pas que des préhistoriens, puisque déjà, les premiers essais, les premières interprétations sur les femmes de la préhistoire remontent au XIXe siècle, mais ces interprétations, à cette époque-là, n'étaient pas faites par des archéologues, mais par des anthropologues, des philosophes, des historiens des religions, etc.
Et vous, vous revendiquez l'importance, bien sûr, de l'archéologie, puis son indépendance, le fait qu'elle puisse affirmer d'elle-même des choses sans être la science auxiliaire uniquement, dirons-nous, de l'histoire.
Oui, vous savez que l'archéologie a longtemps été considérée comme une science auxiliaire de l'histoire. Autrement dit, elle devait éclairer l'histoire. C'était une discipline d'appoint, en quelque sorte. Mais petit à petit, l'archéologie a pris son indépendance. Alors, moi, je suis archéologue, mais je revendique quelque part d'être historien, en réalité. Et c'est l'archéologie, ce sont ces bribes muettes qui me permettent de construire un récit, un discours.
Et d'ailleurs, que peuvent dire les historiens sur ces périodes-là ?
Les historiens et également les anthropologues ont déjà campé au XIXe siècle ces sociétés, je dirais d'une certaine façon, un peu sans les connaître. Hein. L'anthropologie en particulier, au XIXe siècle, a évoqué une sorte de trajectoire générale des sociétés, et notamment Morgan, notamment, qui considère que la période que nous, à présent, appelons néolithique, n'est-ce pas ? Lui, il appelait ça la barbarie. Le paléolithique, c'était la sauvagerie, la barbarie, et puis la civilisation qui arrivait. Et Morgan lui-même, c'était un juriste, c'était un Américain. Il avait travaillé sur les Iroquois et il avait observé que dans les populations iroquoises, les femmes avaient un certain rôle assez important dans la société. C'était elles qui géraient l'économie, mais elles avaient aussi un certain pouvoir dans la mesure où elles pouvaient, par exemple, intervenir dans les décisions concernant la guerre, qui était l'affaire des hommes. Mais voyez, elles se mêlaient aussi de politique, si je puis dire. Et à partir de là, il en était arrivé à la conclusion que les sociétés anciennes, les sociétés du néolithique, les premières sociétés paysannes, étaient des sociétés qui pouvaient être dominées par les femmes. Il avait donc inventé un système où la femme jouait un rôle essentiel comme pivot de la famille, puisque c'est elle qui donnait la vie, qui transmettait la vie. Et donc il pensait que, avec cette image-là qu'il avait sous les yeux, les Iroquois notamment, et il pensait que les femmes avaient joué un rôle important. Alors, et de là est née la notion de matriarcat, c'est-à-dire des sociétés à l'intérieur desquelles les femmes ont des pouvoirs, il faut le dire, une forme d'autorité assez importante. Et donc, à partir de là, les gens qui ont réfléchi sur l'évolution des sociétés ont pris ce modèle-là. Engels, par exemple, philosophe, a pensé que, effectivement, l'humanité, à ses débuts, était passée par un stade où les femmes jouaient un rôle essentiel. Mais les choses se sont aussi un peu compliquées par la suite, parce que les archéologues qui commençaient à ce moment-là à trouver des figurines, etc., qui voulaient les interpréter, eh bien, les archéologues ont pensé que du moment que les femmes jouaient à cette époque-là un rôle important, sur le versant religieux, les divinités étaient forcément des divinités féminines. Elles étaient à l'image, si vous voulez, il y avait une symétrie entre le politique et le religieux. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'à partir du moment où les archéologues ont commencé de trouver des figurines, ils ont dit, bon, ce sont des déesses. Alors voyez, en quelque sorte, l'engrenage, si je puis dire. Bon, il y a une théorie spéculative sur le pouvoir politique des femmes. À partir de là, on rippe sur le religieux. Et à partir de là, les éléments que l'on trouve automatiquement sont des représentations de déesses mères, etc. Enfin, on va y revenir, je suppose.
Alors vous avez justement choisi de travailler à partir des matériaux à notre disposition, vraiment de la matérialité des traces, des objets, et vous êtes fixé un pourtour géographique assez large, qui est celui de l'Europe entière et du pourtour méditerranéen.
Voilà. En fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, à la suite des théories dont je viens de parler, les archéologues ne se sont pas trop posés de questions. Ils ont pensé qu'automatiquement, ces théories étaient évidemment les bonnes, elles étaient dans l'air du temps, et donc, eux, ils ne faisaient qu'apporter des documents qui confirmaient ce point de vue. Or, moi, je me suis placé du point de vue de l'archéologue stricto sensu, c'est-à-dire
prudent.
J'ai voulu voir ce que l'archéologie pouvait réellement dire à partir de ses propres sources. Et effectivement, le cadre géographique qui a été le mien, en gros, c'est la Méditerranée et l'Europe. La Méditerranée avec, au sens large, et comme Brodel un peu l'entendait, parfois j'arrive jusqu'au Sahara. Vous voyez, je suis un peu envahissant géographiquement.
Et alors, justement, toutes ces figurines, si on les considère vraiment dans leur matérialité, sans trop interpréter, que nous disent-elles de la femme et peut-être d'abord de la femme par rapport à l'homme? C'est le corps sexué qui apparaît d'abord très présent.
Oui. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ces figurines sont très nombreuses et sont surtout très diverses. Il y a toute une série d'écoles, on peut les appeler comme ça, parce que dans une région donnée, à un moment donné, on voit que l'on fait des figurines d'une certaine forme, d'un certain style. Puis ça change. Il ne faut jamais perdre de vue quand même que le néolithique, au Proche-Orient, en gros, c'est 9000, 3000, 5000, 3000, c'est-à-dire c'est 6 millénaires. En Europe, en gros, c'est au mieux 6000, grand maximum, jusqu'à 2000, c'est-à-dire c'est 4 millénaires. Donc, c'est très long, le néolithique. Il y a autant de temps pendant toute la durée du néolithique qu'entre le néolithique et nous. Et 2000 avant, nous on est 2000 après, vous voyez, 4000 ans. Donc les choses ont changé. Elles ont changé dans le temps, elles ont aussi changé dans l'espace, parce que le néolithique, c'est une mosaïque de cultures qui se transforme, qui se modifie en permanence dans la façon de construire les maisons, d'enterrer les gens, de fabriquer des poteries, de les décorer. Donc, vous voyez, les systèmes bougent beaucoup. Et donc, vouloir ramener tout ceci à un modèle clé, la femme du néolithique, ça n'existe pas, la femme du néolithique. Il y a des femmes au néolithique dont le statut peut changer en fonction de la position sociale, en fonction des cultures, donc très grande variété. Et donc, ramener notre travail à quelques stéréotypes, comme on a tendance à le faire parfois encore aujourd'hui, c'est pas très scientifique en définitive.
Et si on part, par exemple, du rapport au corps tel qu'il se manifeste dans ces statuts, vous, qu'est-ce que vous en tirez ?
Alors, le rapport au corps, si on regarde effectivement la façon dont ces féminines ont été fabriquées ou construites ou modelées, on s'aperçoit qu'on va de la représentation féminine la plus simple, c'est-à-dire au fond la représentation du sexe. Et au début, on voit par exemple, au cours des temps paléolithiques, des femmes qui sont représentées simplement par leur sexe, les hommes par leur phallus. C'est-à-dire que de l'être humain, on retient la différence pour catégoriser, en quelque sorte, les sexes et au-delà les genres. Bien. Mais on s'aperçoit ensuite qu'il y a une variété absolument énorme. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont traitées d'une manière très schématique, sous une forme cruciforme, sous une forme tout à fait simplifiée, verticale. Et on va de là jusqu'à des femmes qui sont absolument exubérantes, extériorisées. Donc on a une morphologie absolument énorme. On peut dire que le néolithique a été de cette façon une sorte de grand laboratoire de la façon de traduire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de traduire le corps humain.
Et par rapport à l'homme, du coup ?
Alors, l'homme, ce qui est intéressant lorsqu'on a des représentations... D'abord, il faut remarquer que les figurines, en général, sont des figurines féminines. On les reconnaît parce qu'elles sont représentées parfois par leur sexe, pas toujours, mais surtout par leur sein, donc... ou les seins seulement, ou les seins et le sexe, et les hommes souvent, ou par leur pénis, ou rien du tout. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est que on peut se demander, nous avons une catégorisation qui est très simple, qui est binaire, ce qui n'est pas masculin et féminin et vice-versa. Mais à cette époque-là, on voit que des figurines n'ont pas de sexe. Est-ce que ce sont des hommes, autrement dit, puisque ce ne sont pas des femmes, ou est-ce que ce sont... J'appelais ça un peu pour m'amuser dans le livre, un troisième genre. C'est-à-dire, est-ce que ces personnages asexués n'ont pas été modelés, construits, sculptés, précisément pour ne pas avoir de sexe ? J'entends par là, on peut leur faire jouer un rôle quand on les manipule, soit masculin, soit féminin. Et d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'hermaphrodites. C'est-à-dire, on a des figurines qui ont à la fois des caractères masculins et des caractères féminins. Alors, tout ça, ça nous pose un problème par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que la notion de genre, telle qu'on l'a construite aujourd'hui, qui est binaire, donc masculin-féminin, est-ce qu'au néolithique, cette notion était exactement la même ? Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de fluidité, en quelque sorte, entre le masculin et le féminin, et qui serait notamment représenté par les figurines asexuées. Bon, c'est la question que je pose.
Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Elle reste ouverte ou vous avez quelques éléments ?
Ah, je n'ai pas d'éléments, je pose les questions. Vous savez, dans ce livre, je pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais je pense que mon rôle d'archéologue, c'est de montrer comment... À partir de la documentation existante, on peut effectivement poser des questions qui sont souvent restées dans l'ombre. Alors, pour répondre à la question que vous m'aviez posée précédemment, l'homme et la femme. Alors, là, je vais prendre un exemple qui est celui des statues menhirs. Les statues menhirs, ce sont des statues sculptées. C'est la première statuaire européenne connue. Au Paléolithique, il n'y en avait pas. Ce sont des représentations d'hommes ou de femmes. Et alors, vous allez me dire comment on les reconnaît, d'autant que les sexes, dans les deux cas, ne sont pas représentés là. Eh bien, les femmes, on les représente par leur poitrine et par des colliers, par des parures. Et les hommes portent des armes, généralement un poignard, mais ça peut aussi être des haches, ça peut aussi être un arc avec sa flèche, ça peut être des hallebardes, etc. C'est-à-dire que dans le cas des statues menhirs, mais là j'insiste, il faut préciser la chronologie, les statues menhirs, c'est le 4e et le 3e millénaire avant notre ère, on est donc à la fin du néolithique. On a donc une catégorisation des sexes représentés où l'homme est connoté par des armes, c'est-à-dire que l'homme, à travers les armes, s'attribue ce à quoi les armes servent, c'est-à-dire la chasse ou la guerre. Donc l'homme, en quelque sorte, se connote lui-même par ce qui permet de blesser, de tuer, etc. il est dans le mouvement, il est dans l'action, il est dans la guerre, dans la chasse, etc. La femme, elle, est représentée par des colliers, donc elle est dans la séduction, mais elle est surtout représentée par ses seins, elle est topless, si vous voulez, par sa poitrine. C'est-à-dire qu'elle est représentée par un élément qui peut renvoyer à l'allaitement, donc à la maternité, qui peut renvoyer à l'anatomique, c'est-à-dire à l'intime. Donc vous voyez cette espèce d'opposition, là on est dans le binaire réellement, entre l'homme qui est dans le mouvement, dans l'extérieur, et la femme qui est plutôt dans l'intime, dans le domestique, dans le gynécée. Voyez, ça c'est le cadre général. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des exemples qui infirment cette chose-là, mais disons le cadre général de ces sociétés au 4e et 3e millénaire, c'est une sorte de dichotomie entre ce qui est la sphère du masculin, c'est-à-dire le mouvement, et ce qui est la sphère du féminin, c'est-à-dire l'intime, l'anatomique, l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. Voyez, c'est structuraliste.
Et par rapport à la maternité,
alors, la maternité,
comment est-elle perçue? Et puis, est-ce qu'on voit des femmes avec enfants?
Alors, ça, c'est un gros problème. Parce que, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, le fait que la femme engendre, donne la vie, on a créé toute une série de la terre-mère, la déesse-mère, autrement dit, la femme enfante, elle donne la vie, et la terre donne la moisson, elle donne le blé, elle donne les céréales. Donc, la femme est féconde, la terre est fertile. Donc, la terre et la mère constituent deux entités qui sont très proches les unes des autres. Et, en définitive, on a construit toute une série de religions, les religions du néolithique, c'était les religions de la déesse-mère, etc. Donc, si tel était le cas, d'abord on devrait représenter des femmes toujours volumineuses, enceintes, n'est-ce pas? Or, souvent, elles sont très maigres, elles sont très plates, et donc elles ne donnent pas une image de la fertilité. Il en est de très grasses, il en est de très maigres, d'enceintes. C'est-à-dire, là, on devrait représenter des femmes enceintes. Et là, les modeleurs ou les sculpteurs de ces figurines auraient pu en faire ainsi. Mais des femmes enceintes, on en voit très peu. Des parturiantes, c'est-à-dire des femmes qui donnent la vie, on en voit très peu. Donc, je crois que cette notion de déesse-mère, que les néolithiques aient rendu un culte à des formes de vie, de fertilité. Évidemment, ils avaient besoin du soleil, de la pluie pour faire pousser les récoltes. Qu'il y ait eu des cultes à ces forces naturelles, je veux bien. Mais que ces cultes aient été traduits par des figurines, autrement dit, que le cultuel ait été représenté d'une façon anthropomorphique, ça, je récuse, parce que l'archéologie ne peut pas répondre à ces questions, ou en tout cas, elle ne répond pas positivement.
Et quel était l'usage de ces figurines? Pas nécessairement religieux.
Alors, ils pouvaient être religieux. Je pense qu'à l'intérieur, par exemple, des maisons, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, ces néolithiques, ces populations, avaient des religions d'ancêtres. C'est-à-dire que tout groupe humain, pour légitimer son existence, a besoin d'une histoire. Il a besoin de se raconter une histoire avec des ancêtres fondateurs, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, qu'ils soient mythiques d'ailleurs. Et donc, ces gens-là se construisaient en quelque sorte un récit historique, et ce récit historique, il passait par l'ancestralité, c'est-à-dire nous sommes ici, nous cultivons ce sol, parce qu'avant nous, nos ascendants, nos ancêtres se le sont appropriés, il est à nous parce qu'on nous l'a en quelque sorte transmis. Mais en fait, ces religions d'ancêtres donc font que, dans le cadre domestique, on pouvait effectivement utiliser, un peu comme les santons de Provence, vous voyez, bon, j'y fais allusion d'ailleurs, on pouvait manipuler ces figurines en leur faisant jouer le rôle d'ancêtres, ancêtres très anciens, qu'on n'a pas connus, mais aussi des aïeux, des ascendants, le grand-père, la grand-mère qui avait pu disparaître, etc. Mais on pouvait aussi faire jouer à ces figurines des rôles tout à fait différents, des rôles sociaux. Par exemple, on s'aperçoit que souvent des figurines sont cassées. À un moment, quand un personnage important de la famille décède, on peut casser une figurine qui était censée le représenter. Autrement dit, c'est la fin d'un cycle. On s'aperçoit aussi que certaines figurines ont été modelées de façon à être cassées, c'est-à-dire qu'on a constitué le tronc, puis on a collé la tête, les jambes, les bras éventuellement. Et évidemment, ces points de jointure sont fragiles. Et dans certains moments de la vie, lorsqu'on abandonne une maison, eh bien on abandonne aussi des figurines qui peuplaient en quelque sorte la maison, vous voyez, exactement comme nous avons des photographies, nous, de nos parents, de nos amis, chez nous. Et donc, la maison brûle, on la brûle volontairement des fois parce qu'elle est trop vieille, bon, et en même temps, on casse les figurines qui sont liées à l'histoire même, cette maison. Ça pouvait être des ex-voto, ça pouvait être des jouets. Au fond, ce que je crois, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une fonction des figurines. On peut leur faire jouer le rôle que l'on veut. Et c'est le manipulateur qui lui-même donne son sens à ces petites choses.
Et justement, à propos de rôle, a-t-on une idée du rôle social que pouvaient jouer les femmes ? C'est très divers, elles peuvent être haut placées comme être quasiment esclaves.
Oui. Alors d'abord, il y a les rôles économiques, n'est-ce pas ? Autrement dit, les femmes... Par exemple, dans l'art du Levant espagnol, on se rend compte que les femmes ont des fonctions agricoles. Voyez comment, par engrenage, on a tendance à dire « Ah ben oui, mais évidemment, au temps paléolithique déjà, l'homme chassait, la femme cueillait. L'homme avait, en quelque sorte, été toujours dans le mouvement, la femme était plus routinière, plus calme, plus posée. Bon, il y a des femmes qui peuvent chasser. On connaît des sociétés ethnographiques où les femmes chassent. » Donc, si la femme au néolithique, et on en a la preuve, exerçait des fonctions agricoles, ça ne veut pas dire que les hommes n'y participaient pas, bien entendu. Donc, voyez, il faut toujours se méfier des stéréotypes. Alors, les femmes, donc, elles pouvaient jouer un rôle économique, elles pouvaient être agricultrices, elles pouvaient s'occuper de garder les troupeaux, elles pouvaient être apicultrices.
Et ça, comment le sait-on ?
Eh bien, on a l'art du Levant espagnol. Ça, c'est une source extraordinaire. Dans toute la zone méditerranéenne de l'Espagne, s'est développé dans les courants entre le 5e millénaire et le 3e millénaire tout un art très original qui représente essentiellement des scènes de chasse. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, ces agriculteurs représentent des scènes de chasse. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est routinier. Mais la chasse, au contraire, on peut faire preuve de courage, d'adresse. Et donc, la chasse permet à l'individu de se construire un statut social. Et là, on a essentiellement des scènes de chasse. Alors, il y a quelques femmes, mais ce sont surtout des hommes. Autrement dit, cet art a probablement été fait par des hommes pour valoriser leurs activités et par là même leur genre, vous voyez. Mais il y a aussi des femmes qui sont représentées, mais souvent, alors, les femmes, elles dansent ou elles sont en groupe, vous voyez, elles ont d'autres attitudes. Et il n'est pas interdit de penser que les scènes où les hommes se valorisent ont été peintes par des hommes et celles où les femmes se valorisent ont été peintes par des femmes. On en voit qui dansent même, vous voyez. Bon. Donc ça, en gros, c'est les comportements. Maintenant, le statut social, c'est la question que vous m'avez posée. Eh bien là, c'est vrai que globalement, on se rend compte que les hommes sont plus valorisés que les femmes. C'est-à-dire qu'au néolithique, il y a une étude récente qui est apparue sur la péninsule ibérique où des collègues ont fait un tour d'horizon de toutes les sépultures néolithiques qui étaient connues dans la péninsule ibérique. Et on s'aperçoit que les sépultures connues sont souvent des sépultures d'hommes. Où sont les femmes ? Mais les femmes, elles n'ont pas eu droit à une sépulture. Elles ont peut-être été abandonnées. Leur corps a été jeté à la sauvagine, n'est-ce pas ? Et donc, elles ne sont pas présentes dans le registre funéraire. Elles sont présentes, mais elles sont moins présentes que les hommes. Donc, c'est que leur rôle social était moindre, n'est-ce pas ? Bon. Alors, globalement, donc, on peut penser que les femmes, à ce moment-là, occupaient socialement des positions inférieures. Le machisme vient de loin, et le néolithique en est bien la démonstration. Mais de temps en temps, on a des cultures, à un moment donné, qui montrent que certaines femmes ont joui d'une certaine position sociale. On peut prendre le cas, par exemple, de la civilisation céramique rubanée du bassin parisien, ici, en gros autour de 5000 avant notre ère, où on a quelques sépultures de femmes qui sont richement dotées de parures, etc. Donc c'était le haut du panier de la société. À ce moment-là, des femmes pouvaient faire partie de ces nantis, de ces privilégiés de l'époque.
Et nous allons revenir aux religieux, qui est un terrain beaucoup plus instable, parce que soumis à plus d'interprétations. Quel était le rapport des femmes aux religieux? Pouvaient-elles être prêtresses, par exemple, ou jouer un rôle d'intercesseur avec le monde surnaturel?
Tout à fait. On peut prendre deux exemples. On peut prendre Malte et on peut prendre la péninsule ibérique. À Malte, il existe, à partir du 4e millénaire et jusqu'à la moitié du 3e millénaire, des monuments mégalithiques singuliers qui ne sont ni des habitats ni des sépultures. Ce sont des temples, ce sont des sanctuaires. Et dans ces sanctuaires, on a trouvé des statues qui sont essentiellement des statues de femmes. Alors des femmes très, très dodues, très rondelettes, n'est-ce pas? Bon, souvent topless d'ailleurs. Et dans un de ces temples même, on a retrouvé les restes d'une statue qui faisait presque 3 mètres de hauteur. Alors là, je me pose la question. Vous vous rendez compte que je suis resté très sceptique sur l'existence de déités néolithiques, c'est-à-dire de représentations humaines qui auraient pu représenter le divin. Mais là, on a affaire à une statue qui est plus grande que nature, qui est impressionnante, un peu comme le Christ de nos tympans, des cathédrales, qui est représenté en plus grand que les personnages qui l'entourent. Et là, je me demande si on n'a pas affaire à une fondatrice de lignée, et déjà peut-être à une forme de divinité. À l'intérieur d'un temple, une grande statue, et cette statue est féminine. Là, je rends les armes, en quelque sorte, et je dis que là, peut-être, on est en train de passer réellement à la personnalisation, à l'anthropomorphisation de la notion de divin. Et pour répondre à la question que vous m'avez posée des femmes prêtresses, n'est-ce pas, on a des exemples dans le sud de la péninsule ibérique. On a trouvé, il n'y a pas tellement longtemps, on l'a publié, une grande tombe. Vous savez, les tombes, à ce moment-là, dans le sud de la péninsule ibérique, ce sont des tombes collectives, c'est-à-dire des tombes dans lesquelles on enterre plusieurs sujets. Et dans l'une de ces tombes, la Tolosa de Montelirio, c'est près de Séville, on a trouvé une vingtaine de personnes enterrées. Alors certaines, on n'a pas diagnostiqué leur sexe, mais il y en a une douzaine, on sait que ce sont des femmes, et les autres sont probablement aussi des femmes. Et puis un peu à l'écart, on en a trouvé une qui est enterrée les bras en croix, comme ceci. Elle porte une tunique qui est faite exclusivement de perles en coquillage. Il a fallu, pour faire cette tunique, des milliers de perles en coquillage, c'est-à-dire que cette tunique avait une valeur marchande, il n'y a pas de monnaie à l'époque bien entendu, elle a nécessité un coût de fabrication très élevé. Et donc, on peut penser qu'il s'agissait déjà d'une prêtresse. Et ce cas est d'ailleurs très intéressant, parce que ces femmes, ce sont des femmes jeunes toutes, hein, ce sont des femmes qui ont la trentaine maximum, n'est-ce pas? Ces femmes, d'abord les parois de cette tombe, n'est-ce pas, sont traitées en rouge, c'est du cinabre. Elles ont des vêtements qui sont maculés de cinabre. La couleur rouge est certainement une couleur très importante au néolithique. Et donc, on peut penser que ces femmes, qui sont mortes jeunes, avaient probablement des fonctions sacerdotales, c'est-à-dire qu'elles devaient se maquiller en rouge, n'est-ce pas, porter des vêtements qui étaient teintés de rouge, et on se demande si elles n'ont pas inhalé du cinabre. Le cinabre, c'est du mercure, c'est un poison. Et si ce cinabre ne les a pas tués à la longue. Donc, je réponds à votre question, oui, très probablement, il y avait des officiantes, il y avait des femmes qui étaient chargées de fonctions sacerdotales, et qui parfois en sont mortes.
Vous parlez d'installations funéraires, cela pose aussi la question de la santé des femmes. Est-ce qu'à travers ces... Là, c'est un cas particulier, mais dans d'autres sépultures, on peut avoir une idée de leur état de santé, des raisons pour lesquelles elles meurent?
D'abord, il faut savoir que la durée de vie au néolithique était relativement brève, globalement. On peut avoir des gens qui arrivent à 70 ans, mais en général, on voit qu'il y a des pics de mortalité, surtout chez les femmes relativement jeunes. Évidemment, l'hygiène est en question, bien entendu, donc le manque d'hygiène, le fait que souvent la promiscuité avec les animaux domestiques. Le néolithique, c'est le moment où on commence à élever des cochons, des bœufs, des chèvres, etc. Et donc, les bactéries peuvent passer facilement de l'animal à l'homme. Et qu'il pouvait y avoir des épidémies un peu semblables, ou des pandémies, à celles que nous venons de passer. Donc, les femmes, en plus, avec les accouchements, étaient doublement, en quelque sorte, victimes de ces conditions de vie. D'ailleurs, une étude qui a récemment été publiée dans la revue Paléorient montre très bien que à partir du néolithique, effectivement, curieusement, l'espérance de vie des femmes, pendant quelque temps, a régressé.
Ah oui.
Donc, ça n'était pas un bien, ça n'était pas un plus que le passage au néolithique. Alors, il pouvait y avoir évidemment des tas de maladies contagieuses qui atteignaient ces populations-là. Et alors, je voudrais quand même insister sur quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. À partir du néolithique, on a beaucoup fabriqué, évidemment, de vêtements en laine, c'est-à-dire on a travaillé sur des fibres. On a fabriqué des tapis, des nattes, etc., pour les intérieurs, etc. Et il semble que ce soit les femmes qui étaient affectées à ces activités textiles. Puisque souvent, d'ailleurs, dans les tombes de femmes, on trouve des fusaioles qui sont des objets de tisserand, en quelque sorte. On trouve des alènes, on trouve des aiguilles. Et on s'aperçoit, quand on observe leurs dentitions, que souvent, elles sont les dentitions qui sont abîmées. Parce que probablement, elles cassaient les fibres avec leurs dents, ou elles tiraient sur les fils avec leurs dents, et elles finissaient en quelque sorte par abîmer leur état dentaire.
Est-ce qu'elles étaient présentes dans d'autres sortes d'artisanat que le textile ?
Elles pouvaient être présentes dans d'autres sortes. Par exemple, les figurines, n'est-ce pas ? Les figurines, vous savez, les femmes sont proches de la terre, elles manipulent la terre. Les femmes fabriquent les poteries en général. Et on pense que c'est un travail féminin. Et peut-être qu'ensuite, puisqu'elles sont modelées, ces céramiques, lorsque le tour de potier est arrivé, ça c'est un peu. Mais ça, ce n'est pas au néolithique, c'est plutôt industrialisé. Et que les hommes ont mis la main, en quelque sorte, sur ce type d'activité. Donc on pense que les figurines, notamment les figurines féminines, mais pas que, étaient fabriquées par les femmes. Donc les femmes pouvaient évidemment avoir des fonctions très, très, très diverses, bien entendu.
Qu'est-ce qui va changer avec la fin du néolithique pour les femmes ? Est-ce que nous sommes dans une continuité où il y a des ruptures ?
Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de connaître le métal, qui apparaît d'ailleurs dans le courant du néolithique, c'est-à-dire le cuivre, mais aussi l'or, le plomb, l'argent. Mais l'or, le plomb, l'argent, on en trouve peu, sinon pour les parures, parce que ce sont des métaux qui sont assez mous. Et puis le fait de manier, de mixer en quelque sorte le cuivre avec l'étain pour donner le bronze, ne change pas grand-chose. Simplement, on voit parfois se constituer la hiérarchie sociale ne cesse de grimper, autrement dit,
on passe à
des sociétés qui sont de plus en plus hiérarchisées. Et on s'aperçoit, on va prendre un exemple qui est un exemple espagnol, la civilisation del Argar, dans le sud-est de la péninsule ibérique, eh bien on s'aperçoit que là, il y a une sorte de petite aristocratie, je mets des guillemets, bien entendu. Il y a des hommes et là, il y a des femmes. Et des femmes qui sont bien dotées, avec des diadèmes, en quelque sorte, avec des tas de colliers, de serre-cheveux, en fait, toute une série de parures assez extraordinaires, d'ailleurs, souvent en or et en argent, et qui montrent que, parmi ces aristocrates, le féminin était représenté.
Vous terminez votre livre par une galerie de portraits pour montrer la singularité, d'une certaine façon, de chaque femme. Peut-être que vous pourriez nous en présenter une de ces femmes, celle qui fait la couverture de votre livre, par exemple, une autre de votre choix.
Oui, on va en présenter deux, si vous le voulez bien. D'une part, celle qui est sur la couverture de l'ouvrage, la ballerine. Enfin, c'est un terme qu'on a donné, mais enfin, il semble bien qu'il s'agisse d'une ballerine. On dirait qu'elle fait des pointes, n'est-ce pas ? Avec ses bras levés et ployés en même temps. Elle est très belle, elle est à New York. Vous savez que beaucoup de très beaux objets des pays du Proche-Orient ou d'Égypte se trouvent dans des musées d'Occident. Hein. Bon. Elle est très belle, elle date du prédynastique, du Nagadien. En gros, elle est autour de 3003, 3002 avant notre ère, n'est-ce pas? Et elle est particulière parce qu'elle est vraiment très svelte en même temps, avec une taille très fine, des petits seins. Et curieusement d'ailleurs, elle a un visage un peu en bec d'oiseau. Alors ça, c'était peut-être lié à des... pas à des rites, mais à des histoires, à des mythes qui circulaient sur les femmes à cette époque-là, dans cette région d'ailleurs. Il y a des petites figurines en Afrique du Nord, à une époque différente, qui ont également ce même type de représentation du visage, et donc on peut penser que cela était lié à des mythes. Et si vous le permettez, je peux parler aussi de la dame de Çatalhöyük. Alors là, on est en Turquie, au 7e millénaire avant notre ère.
C'est une autre silhouette.
C'est une autre silhouette. Alors, elle est, elle, très, 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 très charnue, si je puis dire. On pense, mais c'est discuté, qu'entre ses jambes apparaît la tête d'un nouveau-né. Autrement dit, si l'hypothèse est bonne, c'est la mère. Mais surtout, elle s'accoude, elle s'appuie sur des léopards ou sur des fauves. Donc, c'est quand même une métaphore du néolithique. C'est l'espèce humaine qui maîtrise la nature sauvage, la nature animale. Et à elle seule, un peu, cette figurine est un peu le symbole même de la maîtrise de l'homme sur son environnement.
Aujourd'hui, est-ce que ces sujets intéressent? Quels sont les travaux en cours et les champs qui vous paraissent prometteurs?
Oh ben vous savez, l'archéologie ne progresse que par accumulation de données. Donc, d'une part, on peut penser que de nouvelles découvertes permettront de mieux connaître le sens notamment des figurines, parce que vous savez, beaucoup de ces figurines ont été trouvées souvent hors contexte, à une époque où les fouilles n'avaient pas la qualité qu'elles ont aujourd'hui, et donc on cherchait un peu l'objet. Ça a été le cas dans les Cyclades, par exemple, où beaucoup de figurines cycladiques n'ont pas de contexte sûr. Donc il faut, en quelque sorte, avoir des fouilles de plus en plus fines, multiplier les chantiers de fouilles, ça c'est un problème de moyens, bien entendu. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point sur lequel je veux insister, c'est l'apport récemment que nous avons de la génétique. Et la génétique est très intéressante parce qu'elle nous montre des mouvements de population. Elle nous montre, par exemple, qu'à certains moments, dans certaines régions, par exemple dans certaines régions d'Europe au troisième millénaire, les hommes se transmettent les mêmes marqueurs génétiques. Et donc, on peut penser que de père en fils, ils restent sur place, puisque dans les mêmes nécropoles, on peut trouver plusieurs générations. Et la génétique nous montre que les femmes qui sont enterrées dans ces nécropoles, elles ont des origines très diverses. Ça veut dire que les hommes sont restés sur place, ils se sont transmis la terre, puisque la terre, c'est la richesse de l'époque, bien entendu, chez les agriculteurs, et que les femmes, elles, on est allé les chercher ailleurs. Alors, il est très probable que les femmes de la partie haute de la société ont été négociées, et en même temps, on leur a envoyé des filles. Vous voyez l'échange des femmes qui se produit, on leur a envoyé des filles à marier. Et à côté de ça, on a aussi des femmes qui font partie des basses classes de la société, c'est-à-dire celles que l'on enterre communément dans le milieu de la France, même on les jetait parfois dans des silos désaffectés. Alors ça, c'était les pauvresses, en quelque sorte, les femmes qui étaient au bas de la société. Et rien ne nous dit d'ailleurs qu'elles aient été négociées. Elles ont probablement été raptées, puisqu'il y avait des confrontations entre diverses tribus, communautés au néolithique. La guerre existait, bien entendu, et que les femmes pouvaient être parfois les victimes de ces confrontations et être rapatriées chez les vainqueurs comme un simple butin.
Cela ouvre en tout cas des perspectives intéressantes pour un possible rôle des femmes dans la circulation des savoirs, des savoir-faire, des idées, des techniques peut-être?
Absolument, absolument. Autrement dit, le fait que les femmes circulaient, bon gré mal gré, je dirais, que les femmes circulaient, peuvent évidemment entraîner des transferts de techniques, notamment. Vous savez, les femmes fabriquent les poteries, et les poteries sont décorées, et tout ça, à la fois la forme des poteries, la technique de fabrication et le décor, c'est un savoir. Ce savoir, il est transmis de génération en génération. Et puis tout d'un coup, vous pouvez très bien avoir dans une sépulture, dans une tombe, dans un habitat, sur un trajet lointain par rapport à la, au noyau dur de la culture, une céramique qui est exactement du même style. Vous pouvez penser qu'il y a une femme qu'on a mariée, si je puis dire, loin de sa zone d'extraction naturelle. Donc les femmes contribuent effectivement par leur savoir technique au transfert des connaissances et du savoir en général.
Eh bien, un grand merci Jean-Guilaine de nous avoir conduits à cette rencontre avec les femmes du néolithique. Je rappelle donc le titre de votre livre « Femmes d'hier, images, mythes et réalités du féminin néolithique » et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci, à bientôt.
Merci. Thank you.